Et les midis reprennent le large, embarquez donc. Tout à l'heure, je recevrai la comédienne et scénariste Florence Lompré, dont la série Empathie fait un carton. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un centre culturel pas comme les autres, un lieu hybride, une utopie concrète qui se déploie depuis 80 ans à Sao Paulo, au Brésil. Mais pas besoin de traverser les mers pour le découvrir, car le Festival d'automne a proposé à cette maison du peuple une carte blanche et pendant 3 semaines, les voilà installés à la Maison des Métallos à Paris. Benjamin Cerussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Casa do Povo à Sao Paulo, au Brésil. C'est un centre culturel, à la fois lieu de mémoire juive, espace artistique, agora politique, centre sportif, je pourrais multiplier comme ça les définitions. Mais vous, comment vous le définissez, ce lieu? Peut-être pour commencer, à quoi il ressemble tout simplement?
C'est un immeuble de 5 étages, 4000 m2, dans un quartier, ce qu'on appellerait un faubourg populaire, près d'une gare, au centre de São Paulo. Et c'est un immeuble, du coup, où tout est possible, puisque les étages sont en fait des grands plateaux ouverts. Et on les maintient comme ça pour que tout soit possible. Donc, votre discrétion est tout à fait juste, dans le sens où beaucoup de choses peuvent y avoir lieu, en effet, dans chaque étage, à chaque moment. Et c'est une espèce de petite utopie concrète. C'est un lieu qui existe depuis plus de 80 ans et qu'on essaie, en fait, de définir au fur et à mesure des utilisations et activations du lieu. C'est un lieu qui est facile à comprendre quand on y est, quand on l'utilise, quand on active cette mémoire présente, en effet, juive antifasciste, qui résonne très fortement aujourd'hui à São Paulo et dans le reste du monde.
Alors, vous dites d'ailleurs, quand vous en parlez, que c'est un lieu en construction permanente. C'est important pour vous, cette notion, le fait de n'être ni figé, ni dans des murs, ni dans une programmation?
Oui, parce que j'ai l'impression que souvent les lieux d'art, pour des raisons diverses et variées, se fixent sur des modèles de fonctionnement qui ont beaucoup de sens, mais qui parfois, en fait, répondent à des demandes de certaines pratiques, mais pas à toutes les pratiques. Moi, je préfère un lieu qui a un chantier continu, puisque les pratiques artistiques demandent elles-mêmes souvent de repenser les horaires de fonctionnement, les façons de travailler, de capter des fonds, d'activer des publics. Et un lieu plus flexible, plus souple, permet peut-être une meilleure écoute de cette scène et donc une meilleure relation aussi au public intéressé par ces pratiques.
Alors justement, vous parliez des façons de travailler. La vôtre est assez singulière puisque vous êtes certes le directeur, mais en fait, et la programmation et tout ce qui se passe dans ce lieu est décidé collectivement.
Voilà, collectivement, mais pas forcément de façon horizontale. Ça, c'est un peu quand même le secret, parce que sinon, on tomberait dans une espèce d'assembléisme constant sur les décisions à prendre. En fait, on a décentralisé les décisions. Il y a plusieurs centres nerveux au sein de l'institution qui permet que moi, en tant que directeur, notamment directeur artistique, je sois responsable directement peut-être de seulement 20% de ce qui se passe dans le lieu. Et le lieu, en fait, est habité par une vingtaine de collectifs artistiques, mais pas seulement, d'activistes ou du quartier.
De boxe, hein, aussi.
De boxe, exactement. Et d'une clinique de psychanalyse, des groupes de percussion, des groupes de performance, une chorale coréenne, une chorale yiddish. Et tous ces gens-là ont la clé du lieu et habitent et activent ce lieu donc de façon continue et le programme et participent même à sa gestion. Et c'est un peu ça peut-être qui nous permet d'être plus grands que nous-mêmes. On n'aurait pas les budgets pour faire tout ce qu'on fait. Et les institutions, souvent, malheureusement, elles veulent tout faire et essayent d'engloutir le monde et n'y arrivent pas. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu le contraire. C'est d'accueillir le monde et utiliser notre espace, nos 4000 m2, comme une ressource pour d'autres groupes, bien sûr, proches, alignés, singuliers, mais qui ont des rapports ou bien historiques ou bien politiques avec ce que la Casa do Povo défend.
Quand vous dites la clé, c'est au sens métaphorique et au sens concret du terme, ils ont effectivement la clé du lieu? Tout le monde a la clé du lieu?
Oui, tous les groupes ont la clé du lieu. Je pense que ça nous rend même peut-être plus sûrs de savoir que tout le monde a la clé du lieu. Et c'est une question toujours intéressante. Est-ce que vous avez la clé du studio, de la radio, des centres culturels que vous fréquentez? À qui vous donnez la clé de votre maison? On parle de confiance radicale à la Casa do Povo. C'est ce qui nous intéresse vraiment, de pouvoir construire le lieu ensemble. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir confiance dans les personnes qui l'utilisent.
Alors, on l'entend quand vous en parlez, hein, c'est un lieu qui est à la fois culturel et social. Est-ce que cette distinction a un sens pour vous?
Pas vraiment. Ce qu'on essaye de penser et de défendre, c'est que c'est un lieu d'art avant tout. Mais on a une conception en fait, de la notion d'art qui est très ouverte. L'idée, c'est que si la culture organise nos façons de nous asseoir, de manger, de parler, de discuter, l'art désorganise et propose d'autres formes d'organisation. Et du coup, nous, on défend vraiment que la Casa do Povo est un lieu où l'art est en contact avec d'autres sphères de la vie, ce qui fait du bien à l'art, mais aussi où on arrive à identifier dans d'autres pratiques, pas forcément artistiques, par exemple une clinique de psychanalyse ou une académie de boxe, des façons de faire analogues aux façons de faire artistiques. Donc, c'est pas n'importe quelle académie de boxe, c'est une académie de boxe antifasciste, c'est pas n'importe quelle clinique de psychanalyse, elle est gratuite. Et ces petits déplacements permettent de penser, du coup, des façons de faire qui rapprochent les pratiques artistiques de ces autres pratiques et au final, de créer un lieu de vie assez improbable avec des rencontres improbables entre, du coup, des publics et des pratiques. Et ça nous permet d'imaginer le lieu de façon plus générale, un lieu où, en effet, peuvent surgir des pratiques un peu imprévues et en même temps accueillir des formes de création qui n'ont pas de place dans d'autres lieux, à São Paulo en tout cas.
Alors, ce qui est aussi improbable, c'est que la Casa do Povo a une carte blanche pendant le festival d'automne. Donc, vous investissez pendant 3 semaines la Maison des Métallos. Hein, c'est un lieu dans le 11e arrondissement de Paris. Comment vous avez pensé ce nomadisme? Est-ce qu'on peut garder son ADN en dehors de ces murs?
Alors, c'est une très bonne question. Et la Casa do Povo, quelque part, se la pose depuis sa fondation, parce qu'elle a été créée par des immigrés, immigrants, juifs et juives, antifascistes, qui ont essayé de reconstruire leur monde perdu au Brésil, ou en tout cas de le réinventer. Et donc, quelque part, pour nous, de venir à Paris, même, je dirais, de revenir, puisque le lieu est aussi le résultat d'une conférence qui a eu lieu à Paris en 1937, liée au Front antifasciste, la section juive du Front antifasciste, demandait aux juifs du monde entier de créer des lieux pour lutter contre le fascisme. La Casa do Povo est fille de cet appel. Et du coup, pour voyager, on s'est demandé, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire venir? Comment on pourrait avoir du sens ici? Et quand le Festival d'automne nous a invités, avec cette carte blanche, on l'a remplie. Et on s'est dit que la meilleure façon de faire voyager la maison du peuple, Casa do Povo, ça veut dire la maison du peuple, faire voyager une partie du peuple de la maison. Et comme ça, nos façons de faire seraient présentes. Donc, en effet, on occupe un lieu, on prend les clés des métallos, pour le coup métaphoriquement, et on les donne aussi au Festival d'automne, qui nous transforme en son QG pendant ces 3 semaines.
Alors, une dernière question pour finir cet entretien, Benjamin Cerroussi. Vous arrivez à Paris dans un climat de tension, hein, politique et sociale. Comment un lieu comme le vôtre peut prendre part aux préoccupations actuelles?
Alors, c'est une très bonne question et la réponse, elle va se donner un peu dans le déroulé de nos activités. Mais comme vous pouvez l'imaginer, on vit aussi sous tension très forte aussi à São Paulo, avec une montée très forte de l'extrême droite, étant un lieu juif qui, bien évidemment, a des relations historiques avec Israël et subjectives, mais en étant un lieu aussi très solidaire aux luttes palestiniennes et notamment au moment actuel avec les massacres à Gaza qui sont qualifiés de plus en plus comme des génocides. La Casa do Povo est au milieu de conflits constamment. Les conflits sont malheureusement notre matière première, mais heureusement permettent aussi de mettre les choses en mouvement. Et ici à Paris, on a monté une espèce de petit studio d'impression. Le Publication Studio de São Paulo est venu, il y a des alliés ici à Paris, et on a un studio d'impression pour faire peut-être des posters, des affiches, des fanzines. Donc, on espère que le lieu puisse être investi. On invite les gens à venir, quand on rencontre des groupes, une académie de boxe antifasciste locale, de venir, de s'installer dans les lieux et de l'utiliser, si c'est possible, comme une scène pour pouvoir aussi discuter des questions locales sans qu'on prétende donner des solutions. Ce serait un peu osé, mais en tout cas, participer, être présent avec une certaine distance qui parfois aide peut-être à voir les choses de façon plus claire. Donc, c'est assez excitant, en fait, le moment parisien, français en ce moment, même si c'est très tendu et très polarisé, mais la culture et l'art peuvent peut-être permettre de défier un peu certaines lignes de coupe et en proposer d'autres. C'est ce qu'on espère en tout cas.
Donc rendez-vous à la Maison des Métallos. Merci beaucoup,
voilà,
Benjamin Cerroussi.
96 rue Jean-Pierre Timbaud.
Parfait, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et dans le reste de l'activité culturelle, Marie, on a appris hier le report de l'ouverture du théâtre Nanterre-Amandier.
Oui, prévu initialement fin octobre, la réouverture ne se fera finalement pas avant la mi-décembre, une décision qui menace directement 8 spectacles, dont plusieurs prévus avec des compagnies étrangères. Une déconvenue supplémentaire qui s'ajoute à ce chantier débuté en 2021, dont le coût est passé de 42 à 59 millions d'euros, à cause notamment de l'inflation et de l'augmentation des prix des matériaux.
Et pour finir, Marie, une grande enquête sur les auteurs et autrices de bandes dessinées vient de débuter.
Lancée à l'occasion des 10 ans des États généraux de la bande dessinée, cette enquête concerne tous les auteurs, qu'ils soient professionnels, amateurs ou même étudiants. Ce questionnaire est ouvert à toutes les pratiques, le dessin, le scénario, le manga, l'album traditionnel, le roman graphique ou encore le webtoon. L'objectif est d'avoir une photographie précise et complète de l'écosystème de la bande dessinée en 2025 pour comprendre les évolutions du métier ainsi que l'état de santé des auteurs de bande dessinée au moment où l'IA les menace directement. L'enquête est anonyme et ouverte jusqu'au 19 octobre. Le lien est bien sûr disponible sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.